Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 9 avril 2024. L'alliance AUKUS pourrait bientôt devenir JOKUS. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie étant favorables à l'intégration d'un nouveau membre, le Japon. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'une date précise a été fixée pour entamer l'invasion de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Et puis en France, une marche blanche est prévue ce vendredi pour rendre hommage à Chemseddine, un collégien de 15 ans tabassé à mort il y a 4 jours, pour un motif totalement futile. L'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient favorables à l'intégration du Japon dans le cadre du pacte AUKUS. Un nouveau membre qui serait associé au deuxième pilier de cette alliance, c'est-à-dire au partage de technologies militaires et à la coopération dans différents domaines, comme par exemple l'informatique quantique ou encore l'intelligence artificielle. Pour le Premier ministre australien Anthony Albanese, le Japon est un candidat idéal pour rejoindre AUKUS.
Japan is a natural candidate for that to occur. We look at Pillar 2, that project by project approach is there. What is not proposed is to expand the membership of AUKUS.
Et les forces armées australiennes auront bientôt un nouveau chef. Le gouvernement a indiqué qu'à partir du mois de juillet, c'est le vice-amiral David Johnston qui prendra la tête des forces de défense australiennes. Une charge qui implique, selon ce dernier, de lourdes responsabilités.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force and the families who support them. Thank you.
Interdire, comme dans l'Union européenne, la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 en Australie, c'est la proposition formulée par le Climate Council, qui estime que grâce à cette mesure, les émissions générées par le secteur des transports pourraient être réduites de moitié, et ce dès 2030. Cette organisation appelle également le gouvernement à en faire plus pour favoriser l'électrification des taxis, des VTC et des véhicules appartenant au gouvernement. Il les pousse également à encourager le transport du fret par le rail et à améliorer les transports publics ainsi que les aménagements piétons et cyclables. Cet appel intervient 2 semaines après que le gouvernement fédéral a présenté son projet d'introduire des standards d'efficacité énergétique pour les véhicules, l'Australie étant actuellement, avec la Russie, le seul pays développé au monde qui n'en a aucun. Une date précise a été fixée pour l'invasion au sol de la ville de Rafah. C'est ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui n'a toutefois pas révélé la date en question. Il a formulé cette annonce lors d'une allocation vidéo, et ce alors que des négociations portant sur un possible cessez-le-feu se tiennent en ce moment au Caire.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Les États-Unis, qui sont eux opposés à une telle opération militaire ciblant une ville où plus d'un million de Gazaouis sont réfugiés depuis le début du conflit, ont fait savoir par la voix de John Kirby qu'une proposition de cessez-le-feu avait été soumise au Hamas.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks. Duration, hopefully around 6 weeks, which would do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance.
En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia, passée sous contrôle russe peu après le début de la guerre, est depuis quelques jours la cible de multiples attaques de drones. Tandis que la communauté internationale s'inquiète, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être responsables. Explication Julien Chavanne pour RFI.
Comme à chaque fois, chaque camp se renvoie la balle. Ces deux dernières années, la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec 6 réacteurs, a déjà été visée à plusieurs reprises, sans que l'on sache vraiment qui en est à l'origine. Ce lundi, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé des drones kamikazes. L'un des dômes de la centrale aurait été touché. L'agence nucléaire russe parle de plusieurs blessés. Des mensonges pour les autorités de Kiev, qui jugent que ce sont les forces russes elles-mêmes qui attaqueraient le site avec des frappes simulées. Pour Ulrich Buna, expert en géopolitique, chercheur associé chez Open Diplomacy, la piste d'une manipulation russe est à privilégier.
L'objectif avec cette centrale de Zaporijjia a toujours été assez clair de la part des Russes. D'une part, conquérir effectivement 25% des capacités de production électrique de l'Ukraine, mais d'autre part, effectivement, cette volonté russe d'instrumentaliser le nucléaire pour tenter de faire pression et sur la communauté internationale et sur l'Ukraine, ça c'est quelque chose qui se produit depuis le début de la guerre.
Quoi qu'il en soit, le jeu est risqué. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète d'une escalade majeure qui menace directement la sécurité de la centrale.
Demain, mercredi, c'est jour d'élection en Corée du Sud et ce scrutin pourrait marquer un véritable tournant puisque cette année, les électeurs, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, semblent décider à rejeter les deux principales formations politiques au profit d'une troisième force menée par une figure controversée, l'ancien ministre de la Justice Cho Kuk. Son portrait dressé depuis Séoul par Nicolas Roca pour RFI.
Cette élection est un référendum sur le président Yoon. Voici comment résumer la stratégie politique de Cho Kuk qui assure vouloir faire du chef de l'État un canard boiteux puis un canard mort. L'ancien ministre démocrate a su imposer cette thématique au cœur de la campagne législative. Il faut dire qu'il nourrit un différend personnel avec l'actuel chef de l'État. Alors que Cho était en lice pour être candidat à la présidentielle, un scandale autour de faux documents pour permettre à sa fille d'être admise à l'université l'a contraint à abandonner. Il a été condamné à 2 ans de prison, notamment du fait de la ténacité du procureur chargé de l'enquête à l'époque, Yoon Suk-yeol. Il attend désormais la décision de la Cour suprême, mais même derrière les barreaux, Cho Kuk pourrait peser sur le destin de Yoon. Son parti de la refondation de la Corée est crédité d'une 20% d'intention de vote, au coude à coude avec les démocrates et les conservateurs, selon l'institut de sondage Gallup. Le parti ne présente des candidats que pour les 46 élus à la proportionnelle. Il pourrait obtenir une dizaine de sièges, suffisant pour être une force centrale à l'Assemblée nationale. Cho Kuk pourrait se ranger dans l'opposition et faire de Yoon Suk-yeol le premier président à traverser son mandat sans majorité au Parlement. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Des millions de personnes au Mexique, aux États-Unis et au Canada se sont rassemblées il y a quelques heures pour observer une éclipse totale du soleil. Parmi eux, Timothy Wright, qui a suivi ce moment rarissime depuis Lakewood, dans l'État d'Ohio.
It's pretty wild. You know, I saw things on the news, they were talking about it being celestial and things like that. But as you experience it, it feels kind of weird like that. I thought it was kind of hokey when they were talking about it, but then as it happened, and you know, it was kind of neat. Like you feel like an invigoration or something, it's weird.
En France, une marche blanche va être organisée pour honorer la mémoire du jeune Shemseddine. Ce garçon de 15 ans a été battu à mort il y a 4 jours dans le sud de Paris alors qu'il rentrait du collège. Des milliers de personnes sont attendues vendredi pour lui rendre hommage. Pierre-Olivier pour RFI.
C'est le maire de la ville qui a proposé à la famille de l'adolescent décédé d'organiser cette marche blanche, une commémoration silencieuse, bienveillante, ouverte à tous, qui se tiendra dans les rues à proximité du collège où Shemseddine était scolarisé et dont il sortait lorsque les faits se sont produits. Tabassé dans un hall d'immeuble et laissé pour mort au sol par ses agresseurs. Une violence inouïe qui a stupéfait les habitants de Viry-Châtillon, surtout pour un motif aussi futile. Car l'enquête avance et on en sait plus sur le motif de l'agression. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 personnes ont été mises en examen pour assassinat. Parmi elles, 2 frères, l'un majeur et l'autre mineur, ont été écroués. À l'origine du passage à tabac, il y aurait la sœur de ces 2 frères. Elle aurait eu des conversations sur la sexualité avec Shemseddine et sa fratrie ne l'aurait pas supportée et aurait voulu laver son honneur. L'adolescente de 15 ans a elle aussi été présentée à un juge et mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime, car selon les enquêteurs, elle était au courant du projet de ses frères.
Et on termine ce bulletin d'information par un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Soleil et 29 degrés attendus aujourd'hui à Perth, 19 degrés sous les nuages en revanche à Adélaïde, 16 degrés à Melbourne, 23 à Sydney où on attend quelques averses, ciel bleu pour Brisbane où il fera jusqu'à 29 degrés et le thermomètre montera même ce mardi jusqu'à 35 à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.